tu as toute la suite de louange, tu nous as conduits dans ce moment de fête, dans ce moment de joie. C'est aussi le mot baptisé que nous avons partagé, ce que Jésus a pu faire dans leur vie. Et justement, ce matin, on va parler du sens du baptême. On vient d'assister à six baptêmes, on vient d'assister à six engagements, on vient d'assister à six décisions pour des gens qui ont décidé de suivre Jésus. Et si vous êtes là, peut-être pour une première fois, peut-être vous vous demandez, mais pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi le baptême est-il fait de cette façon et pas d'une autre? Toutes sortes de questions qui peuvent être nécessaires, le baptême. Et c'est ce qu'on va regarder dans le message de ce matin. Alors, pour moi, ce matin, je n'ai pas beaucoup de voix. C'est de la faute de la Marseillaise, de l'auteur but de l'équipe de France. Donc, elle est complètement basse. On va regarder au travers d'un récit biblique qui relate le baptême d'un haut responsable éthiopien. Et cette situation se passe dans le début de l'histoire de l'Église. On va regarder à quelques critères qui donnent du sens à cet engagement, qui donnent du sens au baptême. Alors, si vous pouvez envoyer le PowerPoint. La lecture, je vais d'abord la faire avant d'envoyer le point. Donc, ce sera dans Acte 8, 26 à 38. On va faire cette lecture. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur les chemins qui descendent de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, le ménite éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour l'adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Et puis dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu dis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Passage de l'Écriture qui disait à celui-ci, il a été conduit comme une brebis à la vapeur et pareil à un ennemi muet devant celui qui lui tend. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Le nu dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Il dit, voici de vous, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le Luc répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fut arrêté le char. Philippe et le Luc descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa le Luc. Le premier point ce matin qui fait que des gens s'engagent avec Jésus, c'est que le chrétien se fait baptiser car Dieu met tout en œuvre pour le trouver. Le chrétien se fait baptiser car Dieu met tout en œuvre pour le trouver. Acte 8, 26 à 28, envoyé un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit vers un ménite éthiopien, un fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Cette histoire nous raconte comment Philippe, un disciple de Jésus, envoyé par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, a été interpellé par Dieu pour se rendre à un endroit précis afin de rencontrer un homme qui était venu adorer à Jérusalem. Alors, qui était cet homme? Le texte nous dit que c'était un unique éthiopien qui était responsable du trésor de la reine d'Éthiopie. À l'époque, les hommes au service du royaume étaient souvent castrés. On parle de la reine Candace. Candace, c'est pas un prénom, c'est exactement comme quand on parle de pharaon, c'est un titre pour parler, on peut dire César, par exemple, il y a eu plusieurs Césars. Donc Candace, c'est un peu un nom du même titre, c'est un nom générique pour cette reine, la reine d'Éthiopie. Au temps biblique, l'Éthiopie représentait la Nubie, c'est une région au sud de l'actuel, c'est dans l'actuel Soudan, à 800 km au sud de l'Égypte. Il existait dans ce pays quelques colonies juives, et c'est certainement à leur contact que cet eunuque a dû apprendre à connaître la religion juive, a dû commencer à avoir une découverte de la parole. Et c'est certainement dans ce contexte-là qu'il est monté à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Et ce qui est intéressant, c'est que avant cette rencontre, Philippe est en train de parler de Jésus dans les silences. Il y avait des foules qui étaient en train de se convertir, il y avait des miracles qui se produisaient, il y avait des démons qui étaient chassés, il y avait des maladies qui étaient guéries. La ville de Samarie était certainement en faute avec ce qui se passait. Elle avait un vrai mouvement qui était en train de se produire. Pourtant, Dieu demande à Philippe de s'arrêter pour aller trouver un homme. Il ne l'envoie pas pour aller annoncer la bonne nouvelle dans une ville encore plus grande où il y a encore plus de signes et miracles. Non. Il arrête pour sauver un homme. Dieu préparait un rendez-vous divin dont lui seul a le secret. Et ceci nous démontre l'intérêt que nous avons aux yeux de Dieu. Ça montre l'intérêt que Dieu nous porte. Dieu s'intéresse particulièrement à chacun d'entre nous. Peut-être que ce matin, tu penses que ta vie n'a pas de valeur, tu penses que Dieu ne peut pas s'intéresser à toi, à l'instar de cette unique qui, selon l'Ancien Testament, ne pouvait pas faire partie de l'Assemblée de l'Éternel. Deutéronome 23:2 nous dit « L'homme dont les testicules ont été écrasés ou lui ont été coupés n'entrera pas dans l'Assemblée de l'Éternel. » Le mot « Assemblée », c'est le mot hébreu « Kaal » qui nous parle du rassemblement du peuple. Selon la loi, cette eunuque ne pouvait pas jouer un rôle religieux prédominant. Mais Dieu démontre qu'il s'intéresse à ceux qui sont brisés par la vie. Généralement, les eunuques ne choisissent pas. Mais Dieu nous montre qu'il s'intéresse à ceux qui sont brisés par la vie. Il nous montre qu'il appelle ceux qui ne lui appartiennent pas à faire partie de son peuple. Tous ceux qui peuvent être disqualifiés sur le papier comme cet homme. Dieu appelle et vient les chercher. Il est intéressant de noter que la tradition éthiopienne fait de cet homme le premier évangéliste de ce pays. Alors, ça, c'est pas la Bible qui le dit, c'est la tradition du pays. Mais il aurait été, selon la tradition, le premier évangéliste de ce pays. Lui qui ne pouvait pas faire partie du groupe, lui qui ne pouvait pas exercer un service au sein de ce groupe, est utilisé par Dieu pour que d'autres puissent rencontrer Jésus. Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu peut vous utiliser malgré vos erreurs, malgré vos faiblesses, malgré vos luttes, malgré vos combats, pour être utile, pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus qui sauve vos vies encore aujourd'hui? Amen. Il y en a quelques-uns qui croient ce matin, c'est bien. Mais je voudrais qu'il y en ait beaucoup plus. C'est des gens qui croient que Dieu peut vous utiliser. Dieu est fidèle. Deuxième point, le chrétien se fait baptiser car il a soif de découvrir Dieu. Acte 8, 29 à 31, il repartait ainsi sur son char et disait le prophète. Les amis d'Esprit, Philippe avance et approche-toi de ses femmes. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien lire le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu dis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et invita Philippe à monter à sa sainte. Nous voyons que cet homme avait soif de découvrir Dieu. Il le cherchait en lisant sa parole un petit peu comme le quartier qu'il nous a partagé. C'est au travers de la Bible qu'il a rencontré Jésus. C'est au travers de la Bible qu'il a compris qu'il avait besoin de Dieu dans sa vie. Au travers de cette soif de rechercher Dieu. La Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Jean 6:37 nous dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais il avait besoin d'aide pour comprendre. Il fallait que quelqu'un lui explique ce qu'il était en train de dire, ce qu'il était en train de chercher au travers de la parole. Vous savez, c'est certainement qu'il avait quelques bases de la foi à cause de sa proximité avec les Juifs. Il n'en est pas toujours de même pour les gens qui viennent dans nos églises aujourd'hui. Je vous donne quelques statistiques françaises. Sur 40 millions de Français n'ont plus aucun contact avec la religion. On doit être 65 millions. Les statistiques nous disent que 40 millions de Français n'ont plus aucun contact avec la religion. 80% d'entre eux ne possèdent pas la Bible. 80% d'entre eux ne possèdent pas la Bible. Un sondage IFOP, qui est un peu vieux, qui date de 2004, du 12 avril, dit que la croyance, en parlant de la croyance des Français en Dieu, dit que 44% des sondés disent ne pas croire en Dieu. 44% des gens disent ne croient pas en Dieu. Voilà pourquoi, il est plus, de la même manière que Philippe est venu expliquer les textes à l'Éthiopien, De la même manière, nous devons être contre avant le baptême et même après le baptême. D'ailleurs, je vous rappelle qu'ils sont reçus le cours 1.2 à partir de la rentrée pour les baptiser. Nous accompagnons les gens avant et après le baptême. Parce que certaines personnes peuvent expérimenter une rencontre avec Dieu, peuvent expérimenter une rencontre puissante avec Dieu, mais ils ont besoin d'être conduits et enseignés dans la parole. Vous savez, nous ne voulons pas de gens qui se font baptiser sur le coup d'une émotion, mais nous voulons des gens qui se font baptiser sur le coup d'une décision. Nous ne voulons pas de gens qui se font baptiser sur l'émotion, mais des gens qui se décident pour Christ. Les gens, au travers de ces formations que nous donnons, comprennent ce que ça coûte de suivre Jésus. Parce que suivre Jésus, c'est un prix. Bien sûr que le salut est gratuit. Bien sûr que Jésus a donné sa vie. Mais suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même. Suivre Jésus, et ça demande quelque chose de notre part. Voilà pourquoi on accompagne les gens pour que maman ils disent que nous on peut se mater, je veux suivre Jésus, ils savent l'engagement que Dieu attend d'eux. Que le Dieu attend d'eux. De Timothée 3,16, nous dit toute l'écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu et la femme aussi soient formés et équipés pour toute œuvre bonne. Le fait d'être enseigné par la parole de Dieu de nous permet d'être équipés solidement et marcher en disciple de Jésus. Le livre des Psaumes nous dit que la parole de Dieu est comme une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. Elle a pour but de nous aider à prendre de bonnes décisions et à faire de bons choix pour nos vies. On a besoin d'un contact quotidien avec la Bible pour vivre en chrétien dans notre société. Amen. Troisième point, le chrétien se fait baptiser car Jésus est mort à la croix pour lui. Acte 8, 29 à 33, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tend, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et cette génération, qui l'entendra? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Lui dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole, mais en partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'extrait que l'eunuque était en train de lire est un passage incroyable de l'Ancien Testament, écrit par le prophète Isaïe, qui a vécu plus de 700 ans avant la vie de Jésus, et qui expliquait la mission du Messie. Et je vais lire d'autres versets, ces deux versets juste au-dessus de cet extrait qu'on est en train de lire, qui nous décrivent le Messie, c'est les années 53, versets 4 à 6. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute à tous. Le texte d'Isaïe nous révèle que le Messie porte sur lui à la croix la condamnation que nous méritions à cause de nos fautes et à cause de nos péchés. Et Isaïe révèle la raison du péché. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. L'humanité a été créée pour vivre pour la gloire de Dieu, pour vivre pour lui dans une relation de confiance avec lui. Mais les hommes ont choisi de faire leur propre choix en laissant Dieu de côté. Ils ont eu le désir de vouloir être aux commandes de leur vie. Vous connaissez la célèbre phrase qu'on entend souvent en France, ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. C'est la mentalité de l'humanité. Nous avons rejeté ce Dieu d'amour, ce Dieu de justice, ce Dieu de paix, celui qui a déterminé ce qui est bon ou mal pour cette création, pour chacune de nos vies. Et depuis, nos choix sont dictés par cette soif du pouvoir, cette soif de la réussite, cette soif de l'argent, cette soif du sexe débridé. Et pour s'assurer de toutes ces choses, pour s'assurer de toutes ces choses à laquelle on aspire, nous sommes prêts à écraser ceux qui sont autour de nous. Nous sommes prêts à commettre le mal. Le moi propre règne un véritable dictateur sur nos vies. Ce qui est important dans notre société, c'est mon intérêt, mon plaisir, mon bonheur. C'est le règne de l'égoïsme et de l'égocentrisme. À cause de ce péché, nous sommes séparés de ce Dieu saint et juste. Et les conséquences sont terribles. La Bible nous parle de l'enfer. L'enfer, c'est un lieu, c'est un état de souffrance éternelle séparé de Dieu, prévu pour les méchants, prévu pour ceux qui ne sont pas en paix avec Dieu. Un Dieu saint et juste ne peut pas tolérer l'injustice et le péché. Alors nous sommes tous, on ira tous au paradis. Mais si vous appreniez peut-être que quelqu'un qui aurait abusé de votre enfant et tout ça se retrouverait au même endroit, je pense que vous diriez que ce paradis est un enfer. Je pense que vous diriez que ce paradis est un enfer. Non, on n'ira pas tous au paradis. Non, on n'ira pas tous au ciel avec Dieu. Dieu ne peut pas tolérer le péché et l'injustice. Nous sommes incapables, par nous-mêmes, même en faisant les plus belles actions qu'on voudrait, nous sommes incapables de nous sauver, de nous en sortir par nous-mêmes. Mais dans sa bonté et dans son amour, Dieu a envoyé son Messie pour nous sauver. Dieu a envoyé son Messie pour nous transformer. Concernant les sacrifices et les souffrances du Messie, l'Ancien Testament et les livres prophétiques regorgent de détails. Et je vous donne juste un exemple qui se trouve dans Zacharie, chapitre 12, verset 10, où Dieu dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur celui que nous pleurons sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur celui que nous pleurons sur un premier. » Ce passage décrit un temps merveilleux où Dieu, dans sa grâce, va permettre à son peuple Israël de revenir à lui. Mais ce qui m'intéresse aussi dans ce passage, c'est que Dieu dit « C'est moi, celui qu'ils ont percé. » Dieu affirme clairement dans ce passage la doctrine de l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu s'est fait homme pour nous sauver de nous-mêmes et pour nous sauver de notre propre famille. Dieu s'est fait homme. C'est Dieu saint et juste qui ne supporte pas le péché par l'amour, a pris cette condition humaine que nous avons pour prendre à notre place ce que nous méritons tous. Et c'est la doctrine, c'est que l'Évangile annonce. Dieu est un Dieu de grâce qui sauve encore aujourd'hui. Dieu a offert sa propre vie à notre place pour payer le prix de nos erreurs, pour payer le prix de nos mauvais choix, pour payer le prix de notre folie, de vouloir être le petit Dieu de notre vie, afin de nous sauver du lieu que nous méritons d'aller en faire, la séparation éternelle avec Dieu. La différence de nous qui sommes égoïstes, Dieu nous montre le modèle parfait du véritable amour. C'est un amour qui se donne pour l'autre. C'est un amour qui cherche le bien de l'autre. C'est le même amour que nous sommes invités à vivre dans nos mariages. C'est le même amour que nous sommes invités à vivre dans l'Église. Un amour qui se donne, un amour qui ne cherche pas son intérêt, mais qui cherche l'intérêt de l'autre. Jésus s'est sacrifié. Un amour sacrificiel. Un amour qui n'attend pas, mais un amour qui donne. Colossiens 13 à 14, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui dit « Vous qui étiez morts, en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. » Peut-être ce matin, tu te rends compte que tu as toujours cherché à tout contrôler. Que tu as toujours cherché à diriger ta vie, que tu as cherché à être aux commandes. Et peut-être que tu es en train de prendre conscience que non seulement tu as fait du mal autour de toi, mais qu'en plus tu n'es pas arrivé à tes fins. Il est impossible de satisfaire notre cœur et ses convoitises, parce que plus on lui en donne, plus il a faim, plus il veut manger. On n'est jamais satisfait de toutes les recherches qu'on peut faire. Peut-être ce matin que tu en es dans cet état. Dieu est un Dieu bon. Un Dieu juste, qui a des plans parfaits pour ceux qui lui appartiennent, qui a des plans parfaits pour ses enfants. Dieu t'aime et Dieu veut te prendre par la main. Ma question, c'est vas-tu lui faire confiance et lâcher prise? Vas-tu faire confiance à ce Dieu qui a tout donné, qui s'est sacrifié pour toi? Vas-tu lâcher prise? Parce que pour pouvoir être au bénéfice de ce que Jésus a accompli, Nous avons besoin de placer notre confiance en lui. Et c'est notre dernier point ce matin. Le chrétien se fait baptiser parce qu'il a placé sa confiance en Jésus. Actes 8, 36 à 38, quand ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Le nuque dit, voici Dieu, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je lui dis, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le nuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et fut arrêté le char, Philippe et le nuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa le nuque. À ce moment de l'histoire, nous comprenons que cet eunuque a réalisé que Dieu avait fait une promesse pour son peuple. Celui de l'envoi du Messie pour les sauver d'eux-mêmes et que cette promesse était accomplie en Jésus. Cet eunuque a décidé de devenir disciple de Jésus et marcher pour lui le restant de sa vie. C'est exactement ce que Jacques a posé comme question ce matin. Est-ce que tu décides de marcher avec Jésus jusqu'au bout de ta vie? Est-ce que tu décides de marcher avec la famille de Dieu jusqu'au bout de ta vie? Quand l'unique va demander, mais c'est quoi l'obstacle qui peut se mettre entre Dieu, enfin, entre moi et le baptême, l'unique va lui répondre que la seule chose qui est attendue d'un candidat au baptême, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu venu sur terre pour mourir sur la croix et ressusciter. Le mot grec est important ici parce qu'il s'agit du mot pistéo, qui signifie croire, c'est penser être vrai. C'est être persuadé, c'est donner du crédit à ou placer sa confiance en. Ce mot croire nous parle de confiance plus obéissance. Il ne suffit pas de croire intellectuellement quelque chose sans agir en conséquence, mais bien d'agir en réponse à cette confiance que nous avons. Croire en Jésus exige une réponse, celui de lui confier les rênes de nos vies. Celui de lui confier les manettes, celui de lui confier les commandes. Il veut être celui qui est reconnu Seigneur de nos vies. Qu'est-ce que c'est qu'un Seigneur? On appelle souvent le mot Seigneur. Un Seigneur est celui qui possédait et régnait sur une terre très importante. Jésus veut de la même manière régner sur nos vies. Cela veut dire que c'est lui qui veut déterminer ce qui est bon ou mauvais pour nos choix de vie au quotidien. C'est lui qui veut diriger. Ne perdons pas de vue qu'il est un Dieu qui a manifesté son amour. Ou peut-être on va dire, mais je ne veux pas être sous la coupe de quelqu'un. C'est pas un dictateur de Dieu. C'est un Dieu d'amour qui va tout payer pour chacun d'entre nous. Et c'est lui qui veut prendre ce soin de nos vies. C'est lui qui veut le diriger. Un Dieu d'amour. Alors même qu'on ne méritait pas ce Dieu d'amour à offrir sa vie en échange de l'amour. Alors on peut dire que c'est un bon Seigneur. On peut dire que c'est un bon roi sur nos vies. Soit Jésus est le Seigneur de tout, soit il n'est pas le Seigneur du tout. Soit Jésus est le Seigneur de toutes nos vies, soit il n'est pas le Seigneur du tout. C'est donc dans l'ensemble des domaines de nos vies que nous sommes invités à lui confier. Dieu veut diriger notre vie professionnelle. Il s'attend à ce que nous manifestions l'intégrité dans notre travail. Dieu veut diriger nos vies de couple, nos vies familiales. Dieu a fixé des belles choses pour le couple, par exemple. Il a donné le don de la sexualité et le lien avec le mariage. Donc, dans ce domaine-là, Dieu attend des choses de notre part. On ne peut pas dire que c'est chrétien, là, puis je vais mettre la vie comme tout le monde, non. Parce que Dieu a des plans parfaits pour notre vie. Dieu veut nous conduire. Avec quelqu'un avec qui on va faire la route, avec qui quelqu'un on va s'appuyer ensemble sur Jésus, pour que notre vie de couple puisse faire la différence dans une société. Dieu a des choses à dire sur plein de domaines de notre vie. Dieu veut diriger plein de domaines de notre vie. Il veut être aux commandes. Nous sommes invités à lui confier l'ensemble de notre vie. On ne peut pas lui dire, Seigneur, cette porte est réservée. Tu as le droit à l'accès de toutes ces pièces, mais celle-là, elle est en moi. Soit le Seigneur de tout, soit il n'est pas le Seigneur du tout. C'est Jésus et sa parole, la Bible, qui doivent conduire et diriger nos choix au quotidien. Voilà ce que ça veut dire croire en Jésus. Alors croyez-moi bien ce matin que si nous avons le désir de suivre Jésus, ou même si nous avons peur de lâcher certains domaines de nos vies, Jésus est à notre portée. il va nous accompagner et nous prendre par la main dans ce processus de croissance et de confiance. Jésus veut être le Seigneur de tout, c'est très bien. Que même si on nous dit oui aujourd'hui, il y a encore des choses que nous avons besoin, où nous avons besoin de lui faire confiance et de lui dire prends la clé, prends les règles. Mais c'est ça qui nous attend. C'est ça le fait en disciple de Jésus. Laissez Dieu et son œuvre en nous œuvrer pour que davantage soit vécu partout du ressemblement davantage. C'est le travail de l'esprit de Dieu. Nous devons foi à ce Dieu qui nous tient par la main, qui se met à notre hauteur, qui nous rejoint dans notre dualité là où nous en sommes. Il nous conduit plus loin avec lui. Ce Dieu veut faire la différence. Alors oui, voilà pourquoi, dans nos milieux, nous ne baptisons pas de bébés. Dans nos églises évangéliques, on ne baptise pas de bébés parce que nous croyons, par rapport à ce que la Bible enseigne, que le préalable au baptême est que la personne comprenne l'engagement en croyant en ce que Jésus a accompli pour elle personnellement. Alors, les théologiens discutent un peu ce passage, en tout cas, la fin où on pose la question si tu crois dans tout ton cœur. Dans les plus vieux manuscrits, cette mention n'y est pas. Mais on la cite pourquoi ? Parce qu'on la retrouve ailleurs dans la Bible. L'évangile de Marc dira par exemple celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce que nous voyons dans le livre des Actes, qui nous parle de l'Église quand elle a commencé, quand Jésus l'a envoyé, c'est qu'on baptisait les disciples de cette manière. Alors voilà pourquoi ici, dans nos milieux, on baptise des gens qui disent « Je veux suivre Jésus ». Et un enfant, un bébé, ne peut pas faire ça. Croyons pas que le baptême sauve, croyons que le baptême est un témoignage du salut de Dieu qui est entré dans la vie, de celui aussi qui lui a fait confiance. Donc le baptême n'est pas magique, et ça je dis souvent baptisé. Le baptême ne purifie pas, mais pas comme dans d'autres religions, en parlant de bains qui purifient, qui changent la vie. Le baptême ne purifie pas, mais il symbolise la purification de nos péchés par notre union avec Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous sauver. Pour nous qui avons placé notre confiance en lui, le baptême est un symbole extérieur d'une réalité intérieure qui a pris place dans notre cœur. C'est le symbole d'une œuvre extérieure, d'une réalité intérieure qui a pris place au centre de nos vies. Et je vais vous donner une citation de Wayne Grudem, qui est un théologien charismatique, qui dit que le candidat au baptême descend dans l'eau, c'est une image de sa descente dans la tombe et de son ensevelissement, de la même manière que Jésus a donné sa vie à la croix et qu'il est mort. Et quand il sort de l'eau, c'est une image de sa résurrection avec Christ, afin de une vie nouvelle. On l'a entendu dans le témoignage d'André, c'est le symbole d'une nouvelle vie aujourd'hui. C'est ce qu'elle a voulu acter devant l'Église. C'est une nouvelle vie qui démarre pour moi aujourd'hui. Enfin, ça s'est déjà produit, mais c'est officiel. C'est officiel devant l'Église, c'est une nouvelle vie pour moi. Et quand on sort de l'eau, c'est vraiment cette image de la résurrection, où c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il est un fait public devant l'Église, parce que c'est le symbole d'entrée officielle dans la famille de Dieu, le peuple de Jésus, comme peut l'être un mariage. Nous devons tous, on officialise qu'on est dans une vie intime avec un tel baptême. Voilà un petit peu, c'est quoi le sens du baptême. Et je voudrais juste qu'on ferme les yeux, juste deux minutes. Et vous en priez peut-être que, parce qu'il y a des gens qui veulent aussi se décider qui questionne par rapport à cet engagement par rapport à Dieu. Je vais prier pour toi ce matin. Seigneur, je te prie de fortifier ce matin le Dieu de nous. Je te prie d'encourager, Seigneur. Voici ceux qui sont là avec des questions qui voudraient s'engager plus loin. Je te prie vraiment, Seigneur, que ta parole puisse trouver un écho favorable dans les cœurs ce matin et que cela puisse débouffer sur une décision. Parce que nous croyons, Seigneur, que quand tu nous appelles, tu nous appelles à obéir et à suivre le Seigneur ta voix. Seigneur, c'est des gens qui sont interpellés ce matin, qui sentent que Dieu les attend en tournant par rapport à un engagement plus profond. Je prie vraiment qu'ils puissent avoir une décision, pas simplement une émotion ce matin, mais qu'il y ait vraiment cette soif de dire maintenant, aujourd'hui, je veux choisir de marcher avec Jésus pour le reste de ma vie. Je veux venir te confier les rênes de ma vie. Je prie vraiment de courage. Seigneur, crois que tu as des plans parfaits pour tes enfants, tu as une destinée merveilleuse, pas une vie facile ou simple, Seigneur, mais une vie où tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et je te prie vraiment encore de fortifier et d'encourager, Seigneur. Je te prie pour qu'il y ait davantage encore de décisions au milieu de nous pour dire aujourd'hui je veux marcher avec Jésus, aujourd'hui je veux faire Jésus le Seigneur de ma vie. Je te prie vraiment encore pour ton âme, Seigneur. Seigneur. Merci pour cette témoignage de vie qui nous a montré combien tu es vivant, combien tu fais encore la différence, combien tu es celui qui guérit encore les malades, combien tu es celui qui change encore des situations familiales lourdes, combien tu es celui qui intervient encore, qui veut nous rencontrer. Je te prie ce matin, ce jour-là, qui se sent comme symptomique, indigne, pas capable à cause de la mort ou à cause de ce qu'on pourrait dire pour eux. C'est celui qui te détourne d'une foule pour venir chercher une personne toute seule. Parce que Seigneur, nous avons dû prier tes yeux et tu l'as démontré en donnant ta vie à la croix. Tu nous aimes, Seigneur, et tu cherches encore nos cœurs ce matin. Merci de venir rencontrer et de venir visiter ce matin. Je te prie, Seigneur, pour que de présents qui pour toi, comme cette nuit, Seigneur, puisse tomber, Jésus. Tu es celui qui te déplace pour te rendre proche de nous, pour pouvoir nous rencontrer. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, Jésus. Amen.